Il est 13h17 minutes. Un rapport officiel qui a été publié hier sur la fusillade de l'école secondaire de Parkland, survenue l'an passé en Floride, eh bien, recommande que les enseignants de la Floride soient munis d'armes à feu pour se protéger et protéger les enfants contre d'éventuels tireurs. On recommande également qu'il y ait des zones de refuge installées dans les salles de classe. Cette fusillade-là avait fait 17 morts l'an passé. Ça avait été une fusillade meurtrière, bien sûr, très importante, qui avait marqué les esprits. Christian Fauché est journaliste en Floride et il vit dans le secteur de Parkland. Bonjour, Christian.
Bonjour, Louis.
Alors, comment ça s'était passé? Rappelle-nous un peu ce qui s'était passé à ce moment-là. Il y a un jeune là, qui était entré dans l'école, Nicolas Cruz, armé d'une arme automatique, qui avait tiré un peu partout. T'avais vécu ça comment dans ton secteur, toi?
Ben écoute, moi justement, je venais d'aménager ici. On venait de déménager justement parce que les écoles, c'est les meilleures écoles du comté qui sont dans ce coin-ci. Donc, on a déménagé dans la ville de Coconut Creek, qui est juste à côté de Parkland. C'est un regroupement, c'est un peu comme Montréal avant que ça devienne une île, une ville. Là. Il y a plein de petites villes, Parkland, Coconut Creek, Coral Springs, Beaucaraton, on est tous dans le même coin. Et moi, j'avais avec moi ma fille, elle avait 7 ans en ce moment-là, et l'école finissait à 14h pour les étudiants du primaire. Donc, à 14h30, je reçois déjà les alertes sur mon téléphone des écoles environnantes, dont mon autre fille était à son école, qui était à peu près à 1 mille de là, 1,6 km de cette école-là. Et ils sont tombés en alerte code rouge tout de suite. Donc, on reçoit des textos sur notre téléphone. Et en même temps, ben moi, c'est sûr que les salles de nouvelles commencent à communiquer avec moi, me demander ce qui se passe et tout ça. Donc, je vais aux nouvelles, je reviens. Et là, je suis obligé d'aller couvrir ça, Louis. Ça, un peu comme ton éboulement à toi, si tu veux, quand tu es arrivé là comme journaliste, ouais. Mais que tu ne l'as pas vécu tout de suite, c'est à peu près ce qui est arrivé pour moi, parce que j'ai dû couvrir pour TVA, pour Cogeco également, mais c'était dans ma communauté, des amis à nous, un de leurs fils s'est fait tirer dessus, donc c'était vraiment une façon spéciale de vivre les événements. Moi, ça a été peut-être 3 jours plus tard que j'ai réalisé tout ce qui venait de se passer dans notre communauté, mais d'arriver là et voir les parents en pleurs qui couraient, qui se stationnaient un peu partout dans les rues pour aller chercher leurs enfants, c'était quelque chose d'assez émouvant. Et ouais. Moi, j'ai tout fait ça avec ma fille de 7 ans avec moi parce que j'avais aucun endroit où la mettre pour qu'elle soit en sécurité. Donc, elle est venue avec moi.
Okay.
La communauté, ça a été très dur. Les heures et les jours qui ont suivi, c'était très lourd dans la communauté.
Bon, toi, comme parent là, qui a 2 enfants qui fréquentent des écoles dans ce secteur-là, quand tu lis un rapport dans lequel on dit « Écoutez, les professeurs devraient être armés et on devrait faire des zones de refuge dans les classes », comment tu réagis à ça? Est-ce que ça t'inquiète?
Ben oui, parce que la première chose que tu te dis, c'est « On est-tu rendu là? » Et puis ça, c'est drôle, parce que mon épouse, à chaque fois qu'elle va reconduire les enfants le matin à l'école, parce qu'il y a un policier à chaque école ici en Floride.
Ouais.
Donc, t'arrives et t'as déjà une présence policière, tu te dis « Mais qu'est-ce que ça fait là? » C'est pas dans notre culture, nous, de Québécois, Louis, d'arriver dans une école et de dire « Bon, mais ça prend des policiers à la porte. » Voyons donc, c'est supposé être un endroit où on dépose nos enfants le matin et ils doivent revenir l'après-midi. C'est pas...
On est censé être en sécurité à l'école, oui.
Exactement. On ne devrait pas vivre avec un doute qu'ils ne reviendront pas. Écoute, on ne s'en va pas les mener à l'armée, on s'en va les mener à l'école. C'est complètement aberrant. Et là, de dire « Bon, ben le problème peut être réglé si on donne des fusils aux enseignants. » Ben non, c'est pas en amenant plus de fusils qu'il va avoir moins de détonations. C'est impossible. Faites l'équation, vous allez voir que non. Sauf que peut-être pour... Et là, ça m'amène à cette réflexion, Louis, quand on regarde, parce qu'avec le dossier, arrive une vidéo qui a été produite qui nous donne exactement ce qui est arrivé et qui est arrivé à quel endroit, à quel moment et tout ça. Et on peut voir que au moment où Nicolas Cruz débarque de la voiture Uber qui l'a conduit à l'école, il y a déjà une personne de la sécurité de l'école qui est en mini-car de golf qui le voit et qui voit qu'il transporte un sac. Donc, il peut être, maintenant on fait 1 plus 1, ça fait 2, donc à ce moment-là, on se dit, si lui, il avait été armé, il était allé voir ce jeune homme, dire, hey, qu'est-ce que tu fais ici? T'es pas étudiant ici ou t'es plus étudiant ici? Qu'est-ce qui se passe? Mais peut-être que ça aurait pris fin à ce moment-là. Donc, peut-être que les agents de sécurité armés, on pourrait peut-être faire un pas vers là, même si c'est dans notre tête, c'est incroyable. Mais de là à aller armer les
professeurs.
Les enseignants, non. Et d'ailleurs, le syndicat des enseignants est catégorique là-dessus, il n'y en est pas question.
Ouais.
Et aussi, il y a une association qui est Parents and Teacher Association dans chaque école. Eux aussi, l'association dit, il n'y en est pas question non plus.
Merci, Christian, d'avoir été avec nous.
Plaisir, oui.
Au revoir, Christian Fauché, donc, qui est journaliste en Floride, notamment pour nous, là, un de nos collègues correspondants en Floride. On va maintenant essayer de voir la situation là-bas aux États-Unis. Est-ce que ça change quelque chose, ce rapport-là? Est-ce que véritablement, ça va changer les habitudes des gens là-bas aux États-Unis? Est-ce qu'on va prendre ce rapport-là au sérieux? On en parle avec Francis Langlois, qui est spécialiste de la question des armes à feu, membre associé à l'Observatoire des États-Unis, la chaire Raoul Dandurand. Bonjour, M. Langlois.
Bonjour.
Alors, on pensait que la fusillade de Parkland allait sonner une espèce d'éveil chez les Américains, mais on a l'impression que ce rapport-là vient conforter les pro-armes dans ce qu'ils pensent.
Oui, en effet, les recommandations sont assez surprenantes dans la mesure où la population, de façon générale, donc demande un plus grand contrôle des armes à feu, première des choses. Deuxième des choses, le débat sur les armes à feu depuis cette fusillade-là a beaucoup bougé vers un resserrement du contrôle. Il y a plusieurs candidats démocrates, notamment, qui ont été élus aux élections de mi-mandat sur cette question-là. Des États très permissifs, comme la Floride, ont resserré un tant soit peu les contrôles et donc ouais. de multiplier le nombre d'armes à feu dans les écoles me semble assez surprenant. Ceci étant dit, évidemment, il y a toute l'industrie de la protection des écoles là, qui évidemment met son poids dans la balance. Donc, comme vous le disiez en introduction, là, on va renforcer les fenêtres, on va mettre des espaces de confinement, on va essayer de faire plus de monitoring là, des étudiants qui sont problématiques, bon, des choses comme ça. Il y a évidemment d'autres recommandations, là, c'est quand même un gros rapport, mais effectivement, ouais. Armer les enseignants, c'est quelque chose de très, très surprenant, parce que les enseignants, ils sont là pour enseigner, pas pour tirer sur des gens, pas pour faire de l'entraînement paramilitaire aux policiers. Là, c'est vraiment très surprenant.
Ouais. Mais vous dites qu'il y a une industrie qui se développe sur la protection des écoles. Il y a vraiment là, des entreprises qui se spécialisent là-dedans, qui voient un marché potentiel puis une possibilité de faire des gains.
Ah oui, absolument. C'est plusieurs millions par année. C'est énorme. Donc, ce qu'ils disent, c'est que bon, il y a plusieurs approches. Là, évidemment, on peut disons, renforcer les écoles, les transformer en littéralement en bunker, donc les fenêtres, les portes blindées, ces choses-là. Donc ça, c'est prévenir la menace, là, éviter qu'elle rentre sur les prémices là, de l'école.
Ouais.
Il y a toute l'industrie qui offre des services de protection, donc ça va de gardien à des services de, comment je pourrais dire, pardonnez l'expression, mais de scan. Hein. Donc on vient prendre les plans de l'école, on s'abonne à ça et donc à ce moment-là, les plans d'école sont disponibles pour les postes de police et s'il y a un incident, ben ils peuvent avoir en temps réel exactement où se trouve le tireur dans l'école. Et bref, donc ça, évidemment, il y a tout l'aspect intervention, puis il y a tout l'aspect aussi protection là des enfants, donc des sacs à dos par balles, des maisons pour enfants. Là, vous savez, dans les garderies, on a des maisons en plastique. Ben, il y a des maisons qui ressemblent à des jouets, mais qui sont en fait des lieux de confinement très, 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 très solides. Donc, on insère directement dans les classes. Et donc, il y a toute une industrie, effectivement, de tableaux blindés, de choses comme ça là, qui se développent aux États-Unis, puis bon, évidemment un peu partout dans le monde, mais particulièrement aux États-Unis.
Bon, le rapport suggère aussi, en plus d'armer les profs, là, le rapport suggère d'installer des espèces de zones de sécurité, des zones refuges dans les classes.
Absolument.
Ouais. Qu'est-ce que ce serait? Ça, ce serait de dire de placer les enfants à un endroit où le tireur potentiel ne les verrait pas dans la classe?
Ben, il y a deux choses. Donc, ça, c'est mis en place ici même au Québec, hein, donc au Canada aussi. Donc, l'idée, c'est de confiner, hein, dès qu'il y a un tireur actif dans une institution, c'est de confiner les gens. Donc, on s'enferme dans les classes, on ferme les portes, on bloque les fenêtres s'il y en a pour éviter que la personne regarde et on se tient loin, évidemment, de ce qui est visible à partir du corridor. Donc, il y a ça. Mais ce qu'on voudrait faire aussi, c'est d'avoir des lieux de confinement littéralement blindés, donc des pièces qui sont dédiées à ça. Donc, ça, c'est une option. Et comme je vous le disais tantôt, évidemment, il y a aussi des dispositifs donc qui peuvent se placer. Donc, je vous disais, des tableaux par balles, ben, on peut mettre ça devant les fenêtres d'une classe. Ou encore des structures qu'on met à l'intérieur des écoles là, qui sont renforcées. Évidemment, ça peut prendre la forme de jouets, comme je vous le disais tantôt, ou sinon, littéralement, de bunker, là, effectivement. Donc, on met un peu l'accent là-dessus. Bon, ça, c'est lorsqu'il y a quelqu'un qui est rentré dans un lieu. Évidemment, il y a tout l'aspect prévention, là, mais évidemment, on met l'accent sur la quincaillerie. Là.
Bon, on dit également, on a répertorié l'an passé, en 2018, 89 incidents qui sont liés à des armes à feu dans les écoles aux États-Unis. Mm-hmm. C'est en augmentation d'année après année. Pourquoi est-ce que les écoles sont ciblées autant par les espèces de tireurs fous?
Il y a deux choses. Donc, la première, c'est que depuis Columbine, donc en 1999, il y a littéralement un pattern, si vous voulez. Donc, c'est les deux jeunes hommes qui ont fait cette tuerie-là ont écrit, ils l'ont préparé d'avance, ils ont fait des enregistrements, des vidéos, toutes sortes de choses. Ils ont un journal personnel. Et il y a beaucoup de gens qui s'inspirent de ces choses-là et qui regardent quoi faire, comment le faire, parce qu'ils veulent faire quelque chose de mieux, d'équivalent, ou vous voyez un peu ce que je veux dire. Il y a toute une sous-culture de ça, il y a beaucoup de gens donc qui imitent. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que l'école est un lieu où beaucoup de gens passent, et d'attaquer ce lieu-là, qui est un peu, comment je pourrais dire, le lieu consensuel de la communauté, c'est une façon de rejeter les valeurs de la communauté, de faire ça de façon spectaculaire, donc à travers la violence. Et il y a plusieurs personnes qui se mettent en scène en faisant ça et en montrant leur rejet, donc, de la société dans laquelle ils vivent. Donc, c'est le symbole. Évidemment, il y en a d'autres, mais c'en est un des plus communs, si on veut.
Parce que à chaque fois qu'il y a une fusillade dans une école, le fameux débat sur le contrôle des armes à feu aux États-Unis revient. Moi, j'ai l'impression qu'il y a tellement d'armes à feu en circulation aux États-Unis que ce débat-là est un peu futile, vous ne trouvez pas?
Ben c'est oui, effectivement, c'est un gros problème aux États-Unis parce que, comme vous le dites, il y a beaucoup d'armes à feu, pas juste beaucoup d'armes à feu, il y a beaucoup d'armes à feu extrêmement efficaces, donc des plateformes qui sont utilisées par l'armée, mais bon, apparemment civiles, mais qui restent des armes extrêmement efficaces. Donc, on l'a vu encore à Parkland, mais il y en a eu d'autres avant et après. Donc, vous avez raison là-dessus, c'est un peu problématique. Ceci étant dit, des gens qui ont des intentions, disons, funestes envers des collègues à l'école ou envers des collègues au travail, des choses comme ça, il y en a partout dans le monde, il y en a au Canada, il y en a au Japon, il y en a en Europe, mais il y en a moins dans les autres pays parce que l'outil par excellence pour faire ça, donc l'arme à feu, est beaucoup moins accessible. Donc, il y a toujours une possibilité de mettre la main là-dessus, on s'entend. Mais puisque l'arme n'est pas aussi disponible et pas aussi efficace, ben il y en a moins. Puis c'est moins. Quand lorsqu'il y a des événements comme ça, ben d'une façon générale, il y a moins de victimes parce qu'on est obligé d'utiliser des moyens alternatifs, donc des couteaux, des armes blanches, bref, donc vous comprenez un peu le principe. Mais vous avez raison, effectivement, aux États-Unis, ils sont très mal pris avec la quantité d'armes à feu qui traînent. Là.
Parce qu'on cible souvent le fameux AR-15, là, qui est la version civile du M16, si on veut, là, militaire.
Ouais.
Puis il y a quand même des espèces de trous dans la loi où on dit que c'est seulement la partie centrale de l'arme qui doit être répertoriée avec un numéro de série, tout ça. Alors là, il y a des gens qui contournent la loi en fabriquant cette pièce de la mitraillette, si on veut, sans numéro de série, et ça devient légal, c'est un peu... Parce que ça devient, soi-disant, une arme faite à la maison. Alors, il y a comme un paquet de façons de contourner les règles dans les États où il y en a, n'est-ce pas?
Absolument, c'est très complexe. D'ailleurs, il y a un très, 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 très gros trafic entre les États où il y a beaucoup de réglementation et les États où est-ce qu'il y en a peu. Donc, par exemple, la Californie est très réglementée, pratiquement plus que le Canada, par exemple.
Ouais.
Mais les États comme le Nevada, qui sont en périphérie de la Californie, eux le sont peu. Donc, vous voyez que le crime organisé donc fait beaucoup de transferts d'armes. Donc, même dans les États contrôlés, c'est très difficile de contrôler justement ce problème-là. Et comme vous le dites, on peut fabriquer ces armes-là, d'ailleurs, avec des imprimantes, soit
3D
ou encore... des imprimantes 3D ou encore des machines-outils qui permettent de sculpter des morceaux de métal, parce que ça aussi, c'est en vente ici aussi au Canada, on peut en acheter là, n'importe quel Home Depot. Donc, ça aussi permet de faire des armes. Vous avez absolument raison, c'est un problème. Mais comme je dis, c'est beaucoup la question de l'accessibilité. Donc, s'il faut fabriquer l'arme avant, etc., etc., ben là, c'est peut-être plus compliqué. Si on a juste besoin de payer 400 ou 500 $ aller dans un magasin... pas loin de chez soi, puis il n'y a pas de contrôle, de vérification, bien déjà là, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus simple.
Ouais.
C'est intéressant parce que dans le rapport, il y a beaucoup de recommandations sur l'identification des tireurs potentiels. Et dans le cas de Parkland, c'est assez important, le jeune homme qui a fait ça, il y avait plusieurs signes avant-coureurs. D'une façon générale, ça ne s'improvise pas. Hein. Les gens qui font ça, donc prévoient leur coup, ils réfléchissent, ils font des annonces en parlant à des gens, en faisant des menaces semi-voilées, ils ont des comportements particuliers. Et dans son cas, il avait été identifié par différents intervenants, mais il n'y a pas eu de centralisation des informations. La même chose à Virginia Tech, le jeune homme qui a commis un des pires massacres de l'histoire des États-Unis dans une école. Donc, à cette université-là, tout le monde a dit « OK, ce jeune homme-là est dangereux, son prof, les autorités de l'école, la police, et le matin même, où est-ce qu'il s'en allait l'arrêter, c'est là qu'il est passé à l'acte. » Donc, il les a pris de vitesse. Donc, si on a des bons systèmes pour identifier ces gens-là, déjà là, ça aide énormément. Donc ça, c'est beaucoup recommandé dans le rapport aussi qui a été publié hier.
M. Langlois, merci d'avoir été avec nous.
Ça m'a fait plaisir. Passez une bonne journée, une bonne année.
À vous de même. Au revoir. Francis Langlois est spécialiste de la question des armes à feu. Il est membre associé à l'Observatoire des États-Unis de la chaire Raoul Denturant.